Bonjour, ici l'Eurorépondeur, le répondeur spécialiste des questions européennes. Quelle est votre question ?
Oui, allô ? Je voulais savoir comment s'est construite l'Union européenne, car moi je m'y perds avec tous ces traités européens.
Et oui, tu as raison. L'Europe institutionnelle s'est construite par des traités, beaucoup de traités. Mais ne t'inquiète pas, nous aussi on est un peu perdus dans toutes ces dates et dans tous ces traités. Pour tout comprendre, quoi de mieux qu'un spécialiste de l'histoire européenne ? Alors direction la Belgique, l'Eurorépondeur est allé à la rencontre d'un expert de la construction européenne, Philippe Perchoc.
Bonjour, je m'appelle Philippe Perchoc et j'enseigne les questions européennes au Collège d'Europe à Bruges et à l'Université catholique de Louvain.
Pour essayer d'éclaircir les interrogations de notre auditeur, pouvez-vous, Philippe Perchoc, nous présenter les différentes motivations qui ont fait naître l'idée d'un projet européen ?
Alors, les raisons de la création des premières institutions européennes, tout d'abord, ces raisons, elles sont anciennes. Un mouvement d'unification des Européens peut au moins être tracé jusqu'au Moyen-Âge. Néanmoins, c'est après la Première Guerre mondiale qu'on voit les premiers mouvements. D'un côté, un mouvement institutionnel, la Société des Nations, qui avait une vocation mondiale, mais qui a été surtout à la base européenne, et qui est l'ancêtre de l'ONU. Et de l'autre côté, des mouvements de citoyens, comme ceux du mouvement pan-européen, qui est un mouvement lancé par un personnage très intéressant, qui est à la fois hongrois et japonais, qui s'appelle le comte de Kudenov-Kalergi, et qui veut unir les Européens après la Première Guerre mondiale face à ce qu'il pressent être une menace bolchevique. Après 1945, on trouve une sorte de second souffle pour ces mouvements, à la fois un mouvement européen, donc qui va s'institutionnaliser sous le nom Mouvement européen, qui est une des plus vieilles associations européennes en Europe, et qui va conduire au congrès de l'AE en 1948 à la création du Conseil de l'Europe, qui aujourd'hui s'occupe principalement de questions de droits de l'homme et de culture entre les États européens. Mais on a aussi deux autres, disons, sources, à la fois la guerre froide et la montée du clivage entre l'Union soviétique et les États-Unis, et aussi le soutien américain à travers le plan Marshall à l'Union des Européens. Et donc c'est à la croisée en fait de ces trois mouvements, un mouvement européen, la guerre froide et le soutien américain, qu'on voit apparaître différentes organisations. La CECA, qui est la Communauté économique du charbon et de l'acier, qui va unir la France, l'Allemagne, le Benelux et l'Italie autour d'un marché commun du charbon et de l'acier qui est à la source, disons, à la fois de leur rivalité, mais aussi de la possibilité de se faire la guerre, mais aussi d'autres organisations comme l'OECE, l'Organisation Européenne de Coopération, qui est en fait le véhicule européen du plan Marshall américain, ou l'OTAN, ou d'autres organisations encore, et qui sont nombreuses. Ces organisations, elles vont peu à peu fusionner les unes avec les autres, ou trouver de nouvelles vocations.
Comme nous le disait notre auditeur à l'instant, il y a eu beaucoup de traités de signés en 70 ans, chacun d'entre eux créant de nouvelles institutions. Et justement, Philippe Perchoc, quelles ont été les évolutions institutionnelles que l'Europe a connues durant ces 70 ans ?
Alors, sans rentrer dans les détails des évolutions institutionnelles de l'Union européenne, c'est seulement à partir de 1992 qu'elle prend le nom Union européenne. Avant cela, elle est constituée de différentes communautés européennes, communautés économiques européennes, communautés européenne de l'atome, qu'on appelle Euratom, et la CECA. Mais ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est différents types de mouvements. À la fois, une augmentation des pouvoirs de l'Assemblée européenne, qui est devenue Parlement européen, à chaque traité et à chaque décennie, on a eu une forme de parlementarisation de l'Europe, avec l'augmenté des pouvoirs d'abord budgétaires, et puis après dans tous les domaines du Parlement européen. Mais parallèlement à cette parlementarisation, on a eu aussi une forme de regouvernementalisation, on pourrait dire. C'est-à-dire que on est passé d'un modèle dans lequel c'était les ministres des différents sujets européens qui discutaient, à un modèle dans lequel les chefs d'État ont pris de plus en plus de pouvoir au sein d'une institution créée pour eux, qui s'appelle le Conseil européen. Donc on voit à la fois, d'un côté, cette parlementarisation et de l'autre côté, cette regouvernementalisation. Et un élément essentiel de, disons, la constitutionnalisation de l'Europe, c'est l'importance de la Cour de justice qui, à la fois, va juger de la primauté du droit européen sur les droits nationaux, qui va aussi rappeler à l'ordre les États membres qui ne respecteraient pas les accords qu'ils ont pourtant conclus ensemble, mais qui va aussi donner du pouvoir aux citoyens de se plaindre contre leur État membre ou contre un autre État membre. Et c'est un dispositif très particulier qui n'existe qu'en Europe avec la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne, dans lequel des citoyens peuvent se plaindre de leurs États ou d'autres États. La plupart du temps, le droit international donne aux États le pouvoir de se plaindre, mais pas aux citoyens. Donc vous voyez trois mouvements, à la fois la parlementarisation, d'un autre côté plus de pouvoir pour les États membres, enfin une cour de justice qui a gagné en importance et qui est cruciale à l'intérieur de ce système. Et on pourrait rajouter la Banque Centrale Européenne après la création de l'euro. Et le fait que, parmi toutes ces dimensions, il faut garder aussi à l'esprit l'importance des élargissements, puisque on a eu à chaque fois plus de députés européens, plus d'États membres et plus de commissaires européens dans la Commission européenne. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, à la fois, on pourrait dire que ces 70 dernières années, on a eu toujours plus de pouvoir pour les citoyens, mais on pourrait aussi avoir des arguments pour dire que ces 70 dernières années, on a eu toujours plus de pouvoir pour les gouvernements.
Philippe Herschog, vous évoquiez à l'instant la possibilité pour les citoyens et les citoyennes de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Ça tombe bien, car un auditeur vient à l'instant de nous envoyer un message. Il vous demande comment les habitants européens sont impliqués dans l'Union européenne.
Alors, comment est-ce que les citoyens sont associés à cette construction européenne ? D'abord, ils sont associés, le plus visible, c'est bien entendu à travers le Parlement européen, c'est-à-dire le fait que le Parlement européen est la seule assemblée transnationale, c'est-à-dire une assemblée dans laquelle des citoyens de plusieurs pays qui sont aussi citoyens européens peuvent voter directement pour leurs représentants, ça n'existe qu'en Europe, et que ce Parlement européen a acquis de plus en plus de pouvoir, notamment dans la nomination du président de la Commission européenne, la nomination de différents postes d'importance à l'intérieur de l'Union européenne. Ensuite, la Commission européenne a toujours cherché à associer les citoyens à travers tout un tas de différentes consultations, soutien d'associations, programmes de soutien pour les citoyens, etc. Mais, comme je l'ai souligné, quelque chose qui est aussi très important et qui n'existe qu'en Europe, c'est le fait que les citoyens sont aussi mobilisés par le simple pouvoir qu'ils ont de se plaindre auprès de la Cour de justice. Donc il y a aussi toute une dimension très légale à l'intégration des citoyens, qui fait que les citoyens européens ont des pouvoirs au niveau de l'Europe. Enfin, une nouveauté de ces dernières années, c'est l'idée d'une convention citoyenne, donc qui va associer des citoyens européens de tous les pays pour discuter du futur de l'Europe dans une dimension participative, et ça, on attend encore d'en connaître les modalités.
Enfin, Philippe Herschog, comment vous voyez l'avenir de cette construction européenne pour les prochaines années ? Et plus particulièrement, comment voyez-vous à la fois le débat sur le rôle que devrait jouer le Parlement européen dans l'élaboration du plan de relance post-Covid-19 et à la fois dans le débat lié à la mutualisation de la dette européenne ?
Pour ce qui est de l'avenir, on a en ce moment un débat budgétaire qui est important et qui est lié à la lutte contre les effets négatifs du Covid. Mais ce débat budgétaire, il est aussi un débat politique, puisque dans toutes les constructions politiques anciennes, que ce soit au Royaume-Uni avec la parlementarisation du Royaume-Uni ou aux États-Unis au début du 19e siècle, ces mouvements budgétaires dans lesquels le Parlement fait valoir ses droits budgétaires ou les États membres vont décider d'emprunter ensemble, comme ça a été le cas aux États-Unis, ont une dimension politique cruciale, puisque c'est un pas en avant vers une mutualisation encore plus forte de l'avenir des Européens. Parce qu'à la fois, ça permet à chaque État de rester plus souverain, en ayant plus de pouvoir de décision à l'intérieur du système, mais en même temps, d'être plus souverain au niveau international, puisque le fait de passer par l'Europe permet à des États plus petits, mais quel État aujourd'hui en Europe n'est pas petit, de peser dans le débat international, mais aussi une dimension politique qui est très, très importante. Donc pas seulement budgétaire, mais aussi politique, et ça, pour l'instant, personne ne peut savoir dans quelle direction cela ira. Et deuxièmement, la Convention européenne, va jouer un rôle qui est, à mon avis, important et qui va permettre à des citoyens, alors on ne sait pas encore s'ils seront tirés au sort, on ne connaît pas encore exactement les modalités, mais de donner directement leur avis sur les chemins que devrait prendre l'intégration européenne dans les décennies à venir.
Merci beaucoup à vous, Philippe Herschog. Je le rappelle, vous enseignez les questions européennes au Collège d'Europe et à l'Université catholique de Louvain, en Belgique.
Merci de votre attention. Cette émission vous a été proposée par Radio U et l'association Braise Europe Finistère. Retrouvez tous les Eurorépondeurs en podcast sur le site internet formidable de Radio U.